pour investir, le déchiffrage.
Et le déchiffrage, aujourd'hui, il est avec Bastien Baron, fondateur de Justae, conseil en gestion de fortune. Bonjour Bastien.
Bonjour Antoine.
Alors on va avoir recours à vos lumières très largement tout au long de l'émission, parce que vous allez aussi nous parler de l'actualité du patrimoine un petit peu plus tard. Là, on va rester sur le marché obligataire. Ça reste le marché le plus en vue aujourd'hui, parce que, bien entendu, un marché obligataire, il est réactif aux décisions des banques centrales. On attend la Fed, bien entendu, ce soir. On a eu la BCE qui a fait statu quo la semaine dernière. Mais véritablement, c'est ça qui attire l'attention, parce qu'on se retrouve dans une situation très curieuse où l'inflation reste extrêmement collante, peut-être pas forcément débordante, mais en tout cas très collante. Des indicateurs macroéconomiques qui tendent vers un ralentissement. Il y a le marché de l'emploi, bien entendu, aux États-Unis qui monopolise l'attention. Au milieu de tout ça, la Fed doit faire un choix compliqué et en plus soumise à de très fortes pressions politiques, et notamment de la part de Donald Trump via les entrées qu'il veut sur les gouverneurs et le comité de politique monétaire.
Exactement. Ouais, on parle plutôt côté US. Côté US, effectivement, tout le monde attend, même si c'est largement anticipé. On voyait les Fed Watch qui price à 96%, on va dire une baisse de 25 points de base ce soir. On va dire c'est plutôt bien anticipé par le marché. On voit qu'il y a effectivement les pressions politiques qui sont très fortes. Notamment, là, on voyait qu'il y a Stephen Miran, qui est un fidèle de Trump, qui a été nommé hier. Donc voilà, par contre, il est seulement pour 4 mois. C'est une fin de mandat qu'il récupère. Donc ça, on va voir après ce qui va se passer, mais on arrive assez vite après sur la fin de Jérôme Powell, etc. Donc c'est vrai que j'entendais tout à l'heure, il y avait des échanges qui étaient concernant la neutralité, on va dire, de la Maison-Blanche vis-à-vis de la Fed. On peut effectivement forcément se poser des questions.
Bon, il n'y a qu'à regarder les tweets de Trump, enfin ses posts sur Truth. Là, bon.
C'est agressif.
Oui, c'est extrêmement agressif.
C'est assez agressif. Ouais. Et puis surtout quand on regarde, il y a que, si on reprend un petit peu, il n'y a que 7 membres en fait, qui sont nommés par le président américain pour 14 ans. Donc en fait, en changer un aussi rapidement, avec une démission quand même qui pose des questions sur ce qui s'est passé au mois d'août.
Bah oui.
Donc forcément, c'est un peu compliqué. Nous, on pense que, de toute façon, les pressions sont tellement fortes que les baisses vont devoir se matérialiser. On voit qu'il y avait déjà eu des sujets aussi, si on reste sur ce domaine-là, concernant tout ce qui était... on parlait par rapport à l'emploi.
Oui.
Le chiffre de l'emploi ne lui convenait pas forcément à Donald Trump. Forcément, il a modifié un petit peu la hiérarchie au niveau des statistiques. Donc oui, donc on sait que ça va aller dans ce sens-là. L'inflation, est-ce qu'elle va déraper ou pas? Je pense que c'est plutôt ça, en fait, qui va jouer derrière. Il y a eu des petites rumeurs comme quoi ça pourrait baisser à 50 points de base ce soir. Je pense qu'on n'en est pas forcément là aujourd'hui.
Ouais, c'était une hypothèse. Ouais. Maintenant, bon, la Banque Centrale Américaine, elle est soumise aussi à la pression du marché. C'est-à-dire que si elle descend d'un coup de 50 points de base, tout le marché va se dire « Ouais, la situation est peut-être beaucoup plus compliquée qu'on ne le pensait. »
Ouais, complètement. Mmh. Et puis là, pour l'instant, on va dire, d'un point de vue économique, contrairement à la Banque Centrale Européenne, c'est vrai que c'est pas facile, on va dire, pour eux aujourd'hui. Ils sont dans une situation où ils ont un double mandat, emploi et inflation, et qui est pas facile à piloter aujourd'hui. En Europe, c'est beaucoup plus simple. En réalité, il y a que l'inflation à gérer, donc il y a moins de sujets. Donc effectivement, on va voir ce qui va se passer ce soir, mais pas de grande surprise, en tout cas, à notre avis.
C'est peut-être ça, la leçon à retenir de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. On le disait, bon, c'est compliqué. On a des données macroéconomiques qui sont quand même préoccupantes. On a des exigences politiques de la part de Donald Trump de « il faut baisser les taux, il faut baisser les taux ». Donc voilà, ils sont un peu pris dans les taux, justement. Malgré tout, sur les courbes de taux, à part un petit affolement auquel on a eu droit, mais vraiment assez ponctuel, il y a 2 semaines, on va dire, notamment sur les échéances très longues, là, sur le 30 ans.
Ouais, 30 ans, ouais.
Sur le 10 ans que regarde le marché, on a plutôt une forme de tranquillité assez étonnante.
Oui, tout à fait. On arrive plutôt aux alentours de 4%. On était quand même plutôt aux alentours de 4,50 il y a encore quelques mois. Donc on voit une baisse qui est en train de se matérialiser progressivement. Mais effectivement, il n'y a pas d'affolement. Je pense que ce qui était annoncé un petit peu par Powell il y a encore quelques trimestres, dire un atterrissage en douceur de l'économie, etc., est plutôt en train de se passer pour le moment.
Ouais.
Il n'y a pas de quelque chose de vraiment violent. Et je pense qu'effectivement, je suis assez d'accord, si ce soir il y a une baisse de 50 points de base, bah, du coup, l'information qui est envoyée, elle n'est forcément pas bonne. Alors que dire 25 points de base, ok, il y a un peu de pression, ce n'est pas idiot derrière et ça laisse un peu de marge de manœuvre pour voir... lors de la prochaine réunion, ce qui sera fait.
Voilà, c'est-à-dire que ça pose peut-être les jalons aussi d'une action peut-être un peu plus modérée, mais un peu plus longue dans le temps, c'est-à-dire une sorte de cycle de baisse des taux qui pourrait durer sur plusieurs réunions.
Oui, tout à fait, ouais. Comme on l'a vu en Europe, en fait, finalement, au cours des 18 derniers mois.
Tout à fait. Ben justement, on va passer à l'Europe. Donc, statu quo de la BCE, hein, la semaine dernière sur les taux directeurs. On a encore des gouverneurs qui s'expriment dans la presse ce matin, qui disent le niveau des taux est approprié. Donc, voilà. Malgré tout, on a une patronne de la Banque centrale, Christine Lagarde, qui ne peut que s'inquiéter, comme le reste du pays et de la planète, sur la dégradation de nos finances publiques, qui prend acte de la dégradation de la note de crédit par l'agence Fitch. Il y en aura peut-être d'autres à la clé. Voilà, tout ça, ça nous donne un paysage un petit peu contrasté. Alors, c'est vrai qu'on revient à une certaine forme d'équilibre, là, sur la dette française, bon, un petit peu en dessous de 3,5% sur le 10 ans. Il va falloir s'y faire. Et tout ça, ça va avoir un impact en chaîne sur tout un tas de classes d'actifs qu'il faut absolument garder à l'œil, là, en ce moment.
Ouais, complètement. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu deux choses, on va dire, sur les 12 derniers mois qui se sont passés, qui ont été assez importants. D'une part, on a tous les taux européens, tous les taux d'État européens sont liés au taux allemand, de base, qui est le taux de référence. Et le taux allemand, il a quand même pas mal dévissé parce que l'orthodoxie budgétaire allemande a été mise un petit peu de côté en février avec un plan de relance très important qui a été mis en place, des méthodes de calcul qui ont été revues, notamment pour le déficit. Donc, en une journée, le taux allemand a dévissé de 30 points de base. Donc, ce qui est quand même pas neutre.
C'est la volatilité sur les taux qui inquiète beaucoup de gérants. Plus que le mouvement lui-même, c'est le retour de la volatilité. C'est vrai qu'on n'avait pas vu ça depuis peut-être bien la crise des dettes souveraines ou quelque chose comme ça.
Même l'Allemagne, je crois que c'était depuis 2001 ou 2002, c'était vraiment très ancien.
Effectivement.
Donc ça forcément, après, vu que tous les autres taux européens, dont la France, l'Italie, etc., sont corrélés, il y a un spread en plus. Donc, d'une part, après, il y a un spread en fonction de la bonne santé, on va dire, économique du pays. Et on voit aujourd'hui, je regardais les taux, vous en parlez tout à l'heure, donc l'Allemagne aujourd'hui est à 2,70, et on voit le Portugal qui est à 3,10, Espagne à 3,25, la Grèce à 3,35, et on voit la France et l'Italie qui sont à 3,50, donc on est quand même assez loin, on voit que le spread finalement à 0,80, c'est un spread qui est assez large aussi, qui est assez logique par rapport à ce qu'on voit en France, par rapport à ce qui peut être anticipé, parce que c'est assez facile d'estimer qu'on va se retrouver dans une situation assez similaire à celle de l'année dernière, où il va y avoir beaucoup de mal à sortir un budget. On voit que le budget dérape, on voit que François Bayrou, lors de son dernier discours, il parlait d'un retour, pas à l'équilibre, mais seulement à moins 3%, donc l'objectif qui est annoncé notamment par la Banque Centrale et l'Union Européenne, moins 3%, c'était seulement 2030.
C'est ça.
C'est super loin.
Ouais.
Donc finalement, assez logique. On voit que le pays a du mal à être réformé aussi, donc les réformes ne passent pas. Et on parlait effectivement de Fitch notamment qui a abaissé la note de la France vendredi dernier. Le mois prochain, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est Moody's en fin de mois prochain et Standard & Poor's en novembre. Et on peut évidemment s'attendre aux mêmes choses.
Ouais. Bon, on va voir si ça aggrave la note d'ici là, mais beaucoup de choses peuvent se passer. On va donc suivre avec attention 3,48% là, en ce moment sur l'OAT française 10 ans. Alors, l'OAT, c'est bien beau, mais l'OAT, ça détermine aussi les taux d'emprunt, ça détermine aussi les dynamiques du marché immobilier. C'est la cascade après. Dans quelle situation on se trouve là en ce moment quand on observe les trajectoires de taux?
Ouais, c'est une bonne question. Depuis, tout a été un petit peu modifié pendant l'été. Et on voit que début septembre, les banques ont réajusté leur grille de taux. Et elles ont à peu près toutes augmenté de 0,10 à 0,20% en fait, les taux d'emprunt. Donc, c'est évidemment pas une bonne nouvelle. Ce qui était anticipé il y a encore quelques trimestres, c'était des baisses progressives qui allaient intervenir et finalement, on n'allait pas forcément revenir au taux de 1% qu'on a pu connaître il y a encore 3-4 ans.
Il n'y reviendra jamais.
Voilà. Certainement.
Enfin, sauf si la situation se dégrade.
Se dégrade fortement.
Ouais.
Et finalement, on s'attendait quand même à ce que ça baisse. Et finalement, on est en train de se dire maintenant, les taux à 3%, ça va déjà être pas mal. En fait, d'avoir un taux à 3% sur 20 ou 25 ans, il va falloir s'y faire un petit peu. Ce qui est, je trouve, assez préoccupant finalement, c'est pas forcément le taux nominal, c'est le taux réel.
Oui, retraité de l'inflation.
De l'inflation, ouais. Et là on est à 2%, et historiquement, ça fait depuis 10 ans qu'on n'a pas eu finalement un taux à 2% en taux réel. C'est-à-dire que ça coûte vraiment cher finalement d'acheter de l'immobilier. Et où c'était compliqué, c'était pour ce que je regardais, c'était les objectifs des banques en fait sont déjà atteints.
Oui.
Et donc, du coup, il n'y a plus vraiment d'offres proposées.
C'est ça, parce que, et en plus, ça arrive au pire moment, dans le sens où les banques elles-mêmes démontraient que la demande de crédit recommencer à devenir assez assez importante, notamment du côté des du marché immobilier. Donc on voyait poindre un petit rayon de soleil. Bon bah le soufflet risque de retomber assez rapidement. Enfin moi je sais pas si j'écoute Marie Cœur de Roy avec les experts de l'IMO. Oui, le marché craint que on remette le couvercle finalement. Et est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez et un risque que vous prenez en compte dans votre gestion?
Ouais, complètement. On le voit en fait qu'il y a il y avait de l'attentisme d'une part sur la situation de la France et des taux immobiliers et de l'immobilier en règle générale. Et nous, on voit quelque chose d'assez compliqué sur les ce qu'on appelle, on parle beaucoup des primo accédants. Il y a les secondo accédants.
Oui.
Qui, eux, finalement, ont acheté il y a 6-7 ans.
Donc, ont déjà un bien en stock sur lequel sont passées des courbes de taux, hein,
voilà.
si j'ose dire.
Ils ont des super taux.
Voilà. Ouais.
Leur immobilier n'a pas pris de valeur. Avec l'inflation, ils ont même perdu du pouvoir d'achat. Mm. Et on leur dit, bah, OK, si vous voulez vendre, acheter je sais pas, une pièce en plus, il va falloir vendre, perdre votre crédit à 1%. Et ensuite, acheter quelque chose avec un crédit à 3%.
Oui. Bon. Ouais, oui.
Et donc, du coup, c'est très compliqué.
Ouais. Effectivement, et si on regarde un petit peu, parce que bien évidemment, les emprunteurs et l'offre de crédit est indexée sur la courbe générale des taux. C'est vrai qu'on reste sur des tensions importantes si on regarde un petit peu plus long terme. Bon, alors du fait de l'inflation et du fait du risque politique un petit peu du côté de la France. Et ça va être un facteur à prendre en compte aussi, parce que la législation va peut-être changer, les réglementations aussi. On a l'impression que l'État doit chercher de l'argent partout. Il y a peut-être une mini fenêtre de tir là maintenant. Mais le marché risque de rapidement retomber, en fait.
Ouais, complètement. À ce moment, on le voit, il y a un indice de morosité ambiante qui est assez connu en France. C'est le taux d'épargne par rapport aux revenus disponibles.
Ah oui, on en parle.
Et là, on est quasiment à 19%. Mm. Donc, c'est qu'en fait, tout le monde est en train de loquer un peu son épargne plutôt que consommer, quoi. Donc,
et dans ce contexte-là, vous, en tant que gestion de fortune, vous remarquez quand même, parce que si on regarde les baromètres, je repense au baromètre de l'investisseur de Gaël Sliman qui nous disait, alors effectivement, taux d'épargne record, mais des investisseurs qui dans le même temps se disent, je vais mettre l'argent à l'abri, c'est pas grave s'il rapporte pas trop, c'est pas grave. En même temps, voilà, il y a des actifs à faire tourner. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de volonté d'épargner, mais en même temps de prendre pas trop de risques?
Il y a un peu aussi une position attentiste.
C'est vraiment de l'attentisme, voilà.
En fait, ce qui se passe, c'est que les marchés sont assez hauts, sont plutôt bien positionnés aujourd'hui,
en plus.
Que ce soit aux US, en Europe, etc. Mm-hmm. Donc, on n'a pas un feu vert qui nous dit « là, il faut y aller ». Parce que les marchés sont un peu décotés, etc. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Mm-hmm. L'immobilier, on voit que on n'est pas super positif. Donc, on est beaucoup plus sur les actifs privés, dette privée. On voit que on parlait du marché obligataire. Mm-hmm. Il y a quand même des rendements intéressants.
Ouais.
Un couple rendement risque qui est pertinent. Et quand on pense que l'inflation elle est à 1%, finalement, quand on arrive à voir, même si on prête de l'argent à la France à 3,5, on peut se dire que finalement, c'est quand même un placement pertinent.
Effectivement. Et puis, des conséquences aussi sur tout un tas d'autres actifs. Le private equity, ouais. Je vous garde sous la main. On va en parler tout à l'heure dans l'actualité du patrimoine. Un autre boîte à outils, mais c'est vrai qu'il y a eu un buzz autour du private equity. Où en est le marché en cette rentrée? C'est peut-être un petit peu moins évident. On y reviendra avec vous, bien sûr, Bastien Baron. On vous retrouve tout à l'heure dans l'actualité du patrimoine. Bastien Baron, fondateur de Juste.